Par exemple, pourquoi cette femme avait-elle mis si longtemps à lire le livre une fois rentrée à Paris? Avait-elle attendu avant que de s'y plonger? Et ensuite, plus déroutante encore, si vraiment elle avait trouvé le livre, se pouvait-il que celui-ci fût maintenant au monastère? N'avait-il pas disparu avec elle? Quelqu'un l'avait-il ramené? Ou bien n'avait-elle pris qu'une copie? Andreas, malgré l'esprit scientifique qu'on lui connaît et malgré ses questions qui restaient sans réponse, devait bien reconnaître que cette histoire troublante entrait en résonance avec les faits dont il avait été témoin de première main. Pourtant, il ne pouvait s'y résoudre entièrement. Et à présent, il n'avait plus qu'une seule envie, trouver le livre à son tour. Le trouver et le lire. Car ainsi il saurait, une bonne fois pour toutes. Peut-être découvrirait-il une toute autre histoire. Peut-être confirmerait-il la thèse diagnostique. Peut-être découvrirait-il qui était cette femme. Mais au fond, pour lui, une seule chose comptait, comme toujours, la vérité. Enfin, pour conclure ce chapitre, nous devons dire quelques mots à Alice et Robin. Après les événements terribles qu'ils avaient vécus à Compostelle, et dont, comme ils en étaient convenus, ils ne parlèrent jamais à Andreas, leur relation avait beaucoup évolué. Ils avaient bâti ensemble une complicité nouvelle et se parlaient désormais avec beaucoup de tendresse, partageaient des secrets, riaient d'une même voix et parfois même aux dépens de l'apothicaire. Sur le bateau, on les voyait discuter tout bas jusque tard dans la nuit et ils se livrèrent l'un à l'autre avec bien plus de franchise qu'ils n'en avaient jamais offert à personne. Pourtant, quand bien même Robin eut plusieurs fois manifesté à la jeune fille son désir de franchir un autre pas, celui de l'amour, le lecteur l'aura compris, celle-ci s'y refusait toujours. Le regard qu'elle portait sur l'apothicaire n'avait pas beaucoup changé. Il était encore confus et ambigu, et c'était comme si l'admiration qu'elle vouait au pharmacien l'empêchait encore de se donner à Robin. Cela toutefois ne les empêcha pas de devenir les meilleurs amis du monde. Mais n'y a-t-il rien de plus triste que de recevoir de l'amitié là où vous attendez de l'amour? Ainsi, le jeune apprenti, quoiqu'il fût des plus adroits à masquer sa peine, se laissa ronger par une affliction grandissante. Car plus leur amitié croissait, plus son espoir de devenir un jour l'amant d'Alice diminuait. Et pourtant, il était contraint de s'en contenter. Puis, pour ne pas la heurter, il devait même faire mine de s'en réjouir. Chapitre 139. Ce fut donc au soir du 20e jour de juin de l'an 1313 qu'Andreas, Robin et Alice débarquèrent sur la côte sablonneuse et déserte de la péninsule du Sinaï. Cette région, qui jusqu'au 7e siècle avait appartenu à l'Empire romain d'Orient, était devenue un territoire sarrasin après sa conquête par les armées arabes de Amr ibn al-As, général envoyé par Mahomet. Pendant les premiers siècles du christianisme, cette terre ayant été identifiée comme l'endroit où Moïse eut reçu les tables de la loi, avait été un haut lieu de foi et de construction. Et les Sarrasins l'avaient donc trouvée couverte d'églises et de monastères. Mais quand Andreas, Robin et Alice traversèrent le pays, tout ceci avait disparu. Et seul le monastère de Sainte-Catherine, irréductible, avait survécu, avec ses 200 moines, qu'ici on appelait caloyers. Et l'on verra plus tard de quelle manière. Sur la côte nord de la péninsule, Andreas, qui comme on l'a déjà dit grâce aux grands médecins arabes qu'il avait étudiés avec quelques notions de la langue que l'on parlait ici, trouva un groupe de 3 bédouins qui, pour une somme raisonnable, acceptèrent de les guider dans le désert jusqu'au sud de cette langue de terre où devait se terminer leur long voyage. On prêta à chacun d'eux un dromadaire que les gens du pays appelaient « navire du désert ». C'était d'élégantes montures, hautes et gracieuses, aux poils très clairs, presque blancs, richement harnachées, et qui, pour l'occasion, avaient la bosse recouverte d'une housse de velours. Ainsi, le matin qui suivit leur arrivée, nos 3 compagnons partirent avec cette étonnante caravane de bédouins, chargée de tentes, de tapis, d'outres pleines d'une eau bien rare en ces lieux, de nourriture pour les hommes et de fèves pour les